Bonjour, de l'air pour les services de réanimation. Les transferts sanitaires s'accélèrent. Opération très complexe pour les soignants et douloureuse pour les familles. Témoignage dans un instant. Soulager encore les hôpitaux débordés. Le gouvernement commande 1000 respirateurs en plus. Vous entendrez le ministre de la Santé. Dans ce journal, encore révélation de la cellule investigation de Radio France. Le rassemblement évangélique de Mulhouse. Il y avait beaucoup plus de participants contaminés qu'on ne l'a pensé. Au départ, 20 000 Français bloqués encore à l'étranger, comment sortir de l'impasse? Enfin, pour un peu d'évasion, notre conseil de lecture du jour.
Et puis les invités de la matinale. Patricia Martin, à partir de 7h50, qui recevrez-vous?
La philosophe Camille Froidevaux-Métairie qui nous parlera de la triste augmentation des violences conjugales depuis l'état de confinement.
Et puis à partir de 8h20, question ce matin à l'économiste Gaël Giraud. Il est directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Et vos questions sur les conséquences économiques de cette crise, vous nous appelez dès maintenant. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Il faut donc absolument donner de l'air aux services de réanimation.
Encore un cri d'alarme venu de l'hôpital. Le chef des urgences du CHR de Metz. Le nombre de patients qui arrivent en grande détresse enfle sans cesse chaque jour. Hier, 486 nouveaux malades admis en réanimation. Ils sont actuellement près de 4300 aujourd'hui en France dans ces services. Alors libérer des lits, c'est la priorité des priorités. Inédite opération de transfert sanitaire par TGV médical ce week-end. Pour les familles, c'est un stress supplémentaire. Jérôme Val a contacté le frère d'une malade transférée en Suisse.
Quand Sandra était prise en charge il y a une dizaine de jours après de vives douleurs au poumon, l'hôpital de Mulhouse était déjà en surchauffe. Pour les proches de la jeune femme, l'inquiétude était très forte, comme le raconte son frère Jérôme.
Disons qu'on savait que Mulhouse, c'était pas vraiment le bon endroit pour être hospitalisé en ce moment ou pour tomber malade. On sait que c'est un des points les plus difficiles de France. Et donc c'est vraiment inquiétant de savoir quelqu'un hospitalisé à cet endroit-là, quoi, effectivement.
Et d'autant plus que l'état de Sandra se dégrade rapidement. La décision de déplacer la patiente est prise, la trentenaire placée en coma artificiel est transféré dimanche dernier à l'hôpital de Bâle, en Suisse. Un demi-soulagement pour Jérôme et sa famille.
Sur le moment, quand on nous a dit qu'elle va être placée dans un sommeil artificiel, emmenée, etc., ça fait un peu peur quand même. Mais c'est vrai que les hôpitaux d'Alsace sont tellement dans le chaos, tellement débordés, que c'est un soulagement qu'elle sorte du pays, quoi, qu'elle aille jusqu'à Bâle, où la situation est encore un peu plus gérable, disons.
Une semaine après son admission en Suisse, Sandra commence à aller mieux.
On savait qu'on pourrait mieux s'occuper d'elle à Bâle qu'à Mulhouse, mais on ne savait pas encore quel chemin ça prendrait, donc il n'y avait pas non plus de garantie de sauvetage. Le vrai soulagement, ça a été quand on nous a dit deux fois de suite, ça va mieux, le traitement fait effet, elle respire mieux.
Les transferts comme celui dont a bénéficié la jeune Alsacienne pourraient se poursuivre dans les prochains jours.
Oui, aujourd'hui, 36 de ces patients vont être transportés de Mulhouse et Nancy vers 10 établissements aquitains.
Mobilisation tous azimuts et le gouvernement qui annonce des commandes massives des moyens de protection.
Un milliard de masques commandés, acheminés par un pont aérien entre Chine et France, annonce du ministre de la Santé. Il était hier aux côtés du Premier ministre pour une longue séance d'explications et d'annonces. Des masques FFP2, chirurgicaux, destinés aux soignants. Et pour les non-soignants, pour nous tous, il y aura aussi des masques, promet le ministre. Plusieurs industriels sont mobilisés pour les fabriquer. Et puis, autre annonce d'Olivier Véran, les respirateurs, des appareils essentiels, bien sûr, en ce moment.
La France dispose d'un certain nombre de respirateurs. Il y en a de ce qu'on appelle des légers et d'autres plus lourds, plus efficaces pour les patients qui font les troubles respiratoires caractéristiques des malades atteints du coronavirus. Nous avons monté en gamme tous les respirateurs que nous pouvions monter en gamme. Nous sommes allés récupérer partout où ils étaient sur le territoire national les respirateurs pour les rendre disponibles pour les hôpitaux à mesure qu'ils en avaient besoin. Au-delà, nous avons passé des commandes à tous les producteurs, et notamment un producteur français, Air Liquide, avec une commande qui porte sur plus de 1000 respirateurs supplémentaires. C'est à ce prix que nous pourrons passer le nombre de lits de réanimation équipés de 10 000 à 14 000.
Le ministre de la Santé dans les EHPAD, il a également annoncé qu'il faudrait désormais isoler chaque personne âgée dans sa chambre. Décision difficile, reconnaît le gouvernement, irréaliste selon les syndicats. On n'a pas assez de personnel. La situation est à tous les cas alarmante. On a appris encore la mort hier de 4 résidents dans un EHPAD des Vosges. Enfin, accélération des tests de dépistage. 30 000 par jour, il y en aura d'ici une semaine, et 50 000 quotidiens à la fin avril.
Alors que le virus frappe la France depuis deux mois, on porte ce matin un regard sur le début de la crise.
Oui, retour sur cet épisode fondateur, si l'on ose dire. Le rassemblement évangélique de Mulhouse, en février dernier, plus de 2 000 personnes, et un nombre de contaminés bien plus important que ce que l'on a pensé au départ. C'est une information de la cellule investigation de Radio France, Abdelak El Idrissi.
Une infirmière présente au rassemblement de Mulhouse est à l'origine de 250 contaminations de soignants au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Des participants rentrés en Corse à l'issue de la semaine de prière sont également liés à la grande majorité des cas de Covid-19 détectés dans le sud de l'île. À une moindre échelle, on découvre des cas à Paris, Orléans, Briançon, Agen, en Normandie, en Guyane et même en Suisse. La contamination d'au moins 1200 personnes lors du rassemblement évangélique est une bombe atomique qu'on n'a pas vu venir, explique le directeur de l'agence régionale de santé. Pour ne rien arranger, les malades ont pu se promener librement pendant 10 jours avant qu'on ne découvre l'origine de la propagation. Le 2 mars, l'agence de santé lance l'alerte, mais c'est déjà trop tard. On comprend qu'on a perdu la partie, dit le directeur. Il aurait fallu immédiatement mettre en place un confinement strict de la population, mais à ce moment-là, les autorités n'imaginent pas qu'un scénario à la chinoise soit déjà possible en France.
20 000 Français sont encore bloqués à l'étranger, selon le Quai d'Orsay. De nombreux vols ont été affrétés par Air France, mais la situation se complique pour certains, comme ces deux Françaises. Elles sont bloquées aux îles Fidji et Lise Delève a pu les joindre.
Mélanie a terminé son contrat dans une ONG de conservation marine la semaine dernière, mais impossible de prendre son avion.
Je me présente à l'embarquement et ils me disent que c'est pas possible, ils ne me laisseront pas rentrer dans l'avion parce que Sydney n'accepte plus d'étrangers, même en transit, mais j'étais là, c'est pas ce qu'on m'a dit hier. Hier, je pouvais encore transiter, surtout que j'ai que 2 heures à Sydney. On a tout essayé pendant 6 heures, mais ils n'ont rien voulu savoir.
Depuis, la situation s'est aggravée et plus aucun vol commercial n'est aujourd'hui autorisé sur les îles Fidji. La seule option est donc un rapatriement organisé par l'ambassade de France avec escale à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Problème, ce territoire pourtant français refuse catégoriquement le transit des avions, même demandé par la France. Mylène, professeure bloquée aux îles Fidji.
Je pense que le gouvernement calédonien a quand même une grosse pression de la part aussi de sa population là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même commencé à caillasser l'aéroport et les personnels aériens pour empêcher en fait tout avion d'atterrir en Nouvelle-Calédonie. Donc nous, ce qu'on aimerait juste qu'ils comprennent, c'est qu'on ne veut pas rester en Calédonie, on ne veut pas venir sur leur territoire en fait.
Une soixantaine de Français sont bloqués aux îles Fidji et environ 70 au Vanuatu. Leur situation est particulièrement complexe car un retour nécessite 2 escales minimum, un casse-tête à l'heure où les pays se confinent les uns après les autres.
Alors à ce jour, le coronavirus a fait plus de 30 000 victimes dans le monde, les 2/3 en Europe. Et les États-Unis sont maintenant le pays le plus touché au monde avec 120 000 cas, 2 000 morts, un nombre qui a doublé en 4 jours. En ce moment, on peut donc choisir la façon dont on vit le confinement, essayer en tous les cas. Décider de relever surtout le positif, se plonger dans un bon livre par exemple. Celui que vous nous proposez, Ilana Mor-Youssef, parle justement de ces choix qui détermine nos vies. Il s'appelle L'officier de fortune, son auteur, Xavier Houssain, un portrait bref et intense d'un homme secret.
L'officier de fortune est le portrait d'un inconnu, François, le père de l'auteur. Militaire engagé dans toutes les guerres de l'Empire, au Maroc, en Algérie, en Indochine, François, combattant de la France libre, un héros qui ne comprenait plus son temps. Xavier Houssain.
C'est un livre mélancolique et c'est un livre de mémoire parce qu'il parle de mon père. Il parle de mon père que j'ai très peu connu, que j'ai connu surtout à la fin de sa vie, lorsque c'était vraiment un vieux monsieur. J'ai rencontré mon père, j'avais 17 ans. Et j'étais un petit bâtard, puisque je n'étais pas un enfant légitime.
C'est le cœur battant du livre. François aime Jeanne, mais il est marié. Les choix qu'il a faits, il les examine au soir de sa vie.
Il avait un mariage assez calamiteux, donc il voulait aussi prendre le large. Il voulait voir du pays. Il a choisi la coloniale. Et à ce moment-là, je sais pas comment dire, la France était un pays immense. Enfin, l'Empire était immense. On passait la Méditerranée, on était chez nous. Et plus bas encore. Et en Asie aussi, partout. C'est là où il est dans une espèce de sentiment de, ouais, d'inutilité. Au fond, tout ce pourquoi il s'est battu, tout le monde qu'il a voulu préserver, n'existe déjà plus. Et pourtant, lui, il n'est pas encore mort.
À quoi se réduit une vie, semble se demander Xavier Houssain.
Toute vie est une forme d'échec, ça a passé trop vite et on n'a pas compris.
Le retour sur l'histoire du père est aussi un retour sur soi.
Et je rappelle le titre du livre, L'officier de fortune de Xavier Houssain.